Avant de parler du sujet, j'aimerais vraiment honorer vos efforts, courage. Toute une journée de pratique, c'est vraiment pas évident, comme on le sait, et c'est magnifique de pouvoir être le témoin de toute cette énergie déployée et combien c'est soutenant d'être ensemble, c'est soutenant aussi de d'avoir des compagnons de route. Et donc, j'avais envie de commencer ce soir par dire un ou deux mots par rapport à mon ressenti. Dans un monde aussi troublé, d'avoir toutes ces personnes qui tentent d'y voir un peu plus clair, de réveiller la conscience, d'être un petit peu plus au contact de ce qui se situe dans l'instant présent, pas tant affairé. Donc tout ça, c'est quelque chose de assez exceptionnel. Les sujets, dans une certaine mesure, viennent de vous. Il n'y a aucun doute que, en tout cas pour moi, j'essaye de relier le sujet du soir, le thème, à ce qui a été entendu dans la journée. Et on a beaucoup entendu les termes de simplicité, de fraîcheur, de demeurer au présent, du contact avec la réalité, d'être vif, intéressé à ce qui se passe, et aussi à nourrir cette dimension d'intimité. Et sans aucun doute, ce sont vraiment des aides absolument extraordinaires. Et il y a des moments où on peut se poser la question, simplicité, comment vais-je la trouver? Quand tout est troublé, quand il y a des tourments qui sont là, qu'on est en mer agitée, il y a des fois où ça se complique, non? Vous trouvez pas? Et donc, ça implique qu'il y a quelques éléments aussi à donner par rapport à comment on se situe quand c'est pas simple. L'expérience présente n'est pas simple. Il y a vraiment tout un registre de possibles. Et c'est très intéressant de voir que dans l'enseignement, il y a naturellement cet aspect de ce qui trouble l'esprit. Qui trouble, ce qui tourmente l'être au contact de ce qui émerge. Qu'est-ce qui le voile? Voile la réalité. Donc on l'a dit d'une certaine mesure. Dans une certaine mesure qu'il y a toute cette façon de partir dans l'imaginaire, de se raconter des histoires, de vraiment vivre au contact et déjà de les reconnaître. C'est extraordinaire de pouvoir se rendre compte que ça se passe. C'est énorme. C'est énorme. Et je me souviens très bien que lors de ma première retraite, ça a été immense quand je suis allée voir mon maître, en disant, mais le nombre de pensées que cet esprit peut fabriquer et le nombre de pensées que j'ai pas envie de nourrir. Et en même temps, c'était très intéressant de voir que le registre de mes pensées tournait beaucoup autour du drame et que ce n'était pas forcément plaisant. Donc, on peut avoir peut-être des moments où on se raconte des histoires un peu plus légères, un peu plus plaisantes, mais que, y avait tout un registre de vécu qui était douloureux, beaucoup plus douloureux que la réalité de l'instant, du présent. Donc l'imaginaire, tellement créatif, mais qui va dans un sens de difficulté, de ce qui peut déployer. Donc ça a peut-être été votre cas. C'est possible. Peut-être pas. Mais en quelque sorte, on a cet espace, ce temps qui permet de vraiment découvrir ce qui se situe présentement et de faire une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre, c'est quelque chose d'assez magique en quelque sorte, de ne pas constamment être perdu dans les histoires qu'on se raconte, sans devoir les éliminer, mais simplement les voir pour ce qu'elles sont. Donc ça, c'est une des manifestations qui se passe au niveau du contact avec le présent. Et puis, il y a un autre aspect qui m'est apparu assez rapidement à mettre très, très tôt sur mon chemin. M'avait dit une phrase qui m'est restée pendant toutes ces années et qui m'habite dans le sens de pouvoir vraiment comprendre qu'il peut y avoir de la légèreté. Il disait, il est important d'être sérieux. Mais si on est trop sérieux, on perd son chemin. Alors là, il y a vraiment toute une coloration justement de légèreté, de pouvoir aller à la rencontre de soi-même et de se dire, mais allégeons, comment est-ce que je peux alléger, justement pas pour moi me perdre. Et c'est exactement le même maître qui m'a dit, mais prends pas ces histoires au sérieux. Elles ne sont que des histoires. Et donc, je lui ai demandé quand même un petit peu plus d'éléments, dans le sens de qu'est-ce que ça veut dire d'être trop sérieux? Et sa réponse a été très franche, très directe. Être trop sérieux, c'est être attaché à l'objectif. Être attaché à l'objectif. Un objectif particulier. Et très souvent, c'est exactement ce qui se passe. C'est que on est fixé sur le résultat. Est-ce que vous avez des méditations où vous dites, ah oui, celle-ci, elle était pas mal, mais en fait, elle aurait pu quand même être un petit peu mieux, et puis on commence à évaluer, et puis on se dit qu'on a certainement une expectative et une anticipation par rapport à comment devrait se dérouler une assise, comment devrait se dérouler une journée. Et ça, c'est une source de difficultés inutiles. Mais très souvent, elle se passe, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait pour se rendre la tâche encore plus difficile? L'attachement au résultat, pour moi, a été un défi énorme. Étant de nature un peu perfectionniste, dévalorisant le présent, dévalorisant l'expérience qui est, tout simplement. Et avoir un modèle. Avoir un modèle. Et ça, je le dis souvent pour qui me connaît. Il y a tout un registre de possibles là qui fait que qui on est en tant que méditant ou comment se passe la méditation n'est pas assez. Et ça trouble. Et on peut percevoir. On a chacun, chacune, nos petites manifestations et expressions de ceci, ça peut même être tout simplement, je me souviens très bien, en lien avec la respiration. Comment la respiration est pas la parfaite respiration? Comment elle pourrait être un tout petit peu mieux? Pas besoin qu'elle soit parfaite, mais juste un petit peu mieux. Ça rend la tâche beaucoup plus difficile et lourde, tellement lourde. Donc là, on commence à pouvoir explorer aussi la dimension du rapport à l'expérience. Et c'est ce dont j'aimerais parler ce soir, parce que oui, il y a plein de phénomènes. Il ne va pas cesser d'y avoir des phénomènes, des expériences, comme Pascal l'a dit ce matin, une succession quelque part de phénomènes plaisants, déplaisants. Neutre, agréable, désagréable. Est-ce que ça a changé pour vous depuis ce matin? Combien d'expériences vécues? Une seule? Non, hein? Vraiment pas. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on reste ici 10 ans, et puis il y a l'instant d'après, on se dit, oh là là, plus une assise. Donc, si je le dis, c'est tout à fait normal que ceci se déploie au contact d'une journée de stage intensif. Il n'y a aucun doute que c'est intensif. Mais en même temps, il y a tout un registre de découvertes. Plein de possibles, plein de subtilités et parfois de phénomènes grossiers qui nous apprennent quelque chose dans cette rencontre avec nous-mêmes. Quand on commence à vraiment laisser le présent nous habiter un tout petit peu plus, laisser ce présent se déployer. Et ce qui se passe au présent se déployer. Donc, les choses deviennent plus simples lorsque on a une attitude un tout petit peu plus simple. Donc, comment est-ce que je peux nourrir la simplicité? Eh bien, on l'a dit, en permettant aux choses d'être ce qu'elles sont. En permettant à la vie, on peut parler de pratique, mais c'est vraiment la vie qu'on découvre ici, et qu'on goûte, qu'on savoure. À la vie de se dérouler d'une certaine manière. Et quand il y a l'attachement, eh bien, de s'en rendre compte. Ah ouais, je veux quelque chose là. Je cherche à obtenir. Je voudrais que ça se déploie d'une certaine manière. Et donc, un des premiers aspects qui trouble l'esprit, c'est cette dimension nommée le désir-attachement. Et à nouveau, je crois qu'on peut se dire, « Waouh, non mais moi, c'est bon, j'ai dépassé, j'ai plus de désir-attachement. » J'ai absolument une méditation tout à fait sereine et c'est extraordinaire comme ces petits mouvements, après tant d'années, surgissent et troublent en quelque sorte. C'est quelque part une manière tellement subtile par moment et à d'autres moments tellement grossière comment ce désir-attachement émerge en nous. Et ça fait partie de l'exploration. C'est nommé. Alors très souvent on entend « Ah ouais, c'est un empêchement. » Et ici même, dans cette pratique, rien n'est un empêchement. Tout est source de liberté. Absolument toute expérience, quelle qu'elle soit. Donc, si vous avez eu des difficultés, bienvenue. Certes, un tout petit peu plus difficile au niveau de la rencontre. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui trouble? Donc ce désir-attachement est un désir tout à fait spécifique. Hein. C'est une manière de quelque part être porté à vouloir une expérience, un objet convoité, dans le plaisir des sens, par exemple, qui n'est pas là. Et généralement, je pense que c'est quelque chose de plaisant. À moins que vous soyez vraiment complètement maso, on ne souhaite pas, on ne désire pas quelque chose qui est déplaisant. Pas plus de douleur corporelle. Donc, il y a là une dimension extrêmement manifeste. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez eu envie aujourd'hui d'obtenir, de goûter? Peut-être que si c'était un morceau de chocolat, il est arrivé. Incroyable. Le lien, comme il se passe. Un petit peu de douceur. Du méta concret, matérialisé. Moi, j'ai toujours pensé que c'était quelque part de la bienveillance matérialisée, ce chocolat. En tant que petite Suissesse, c'est clair qu'on aime ça. Mais c'est génial de voir que ça va aussi en France et en Belgique. Donc, c'est extraordinaire de goûter à ce morceau de chocolat qui enfin est là, qu'on pouvait peut-être attendre et Combien de moments, combien de temps il va nous satisfaire? Un éclair. Et après, ben voilà, ça passe. Et puis il y a autre chose. Donc ce sont des désirs-attachements extrêmement particuliers. Et on déploie tout un registre de possibles. Comment on va naturellement avoir, obtenir, satisfaire cet esprit qui est complètement troublé par le désir. Alors, si ce n'est pas un, c'en est un autre, et c'en est un autre. C'est exactement pour ceci qu'on est dans cette situation, en fait, dans ce cadre, où il y a une simplicité telle qu'on ne peut pas ne pas rencontrer cette dimension-là, qui bien sûr se manifeste au quotidien. Mais voilà, immédiatement, sur un pilote automatique, eh bien, j'obtiens ce que je veux. Et j'obtiens ce que je veux. Et j'obtiens ce que je veux. Et puis je me rends compte qu'en fait, je peux obtenir tout ce que je veux. Quelque part, il manque encore quelque chose. Donc c'est là que ça devient fascinant, parce que la pratique nous aide vraiment à tourner le regard, à porter quelque part la vision sur le désir lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce désir? Comment il se manifeste? Explorer cette dimension-là. Donc il y a vraiment une manière de tourner l'attention, non pas tant dans ce que j'aimerais obtenir, l'objet, ou le plaisir des sens, ou le contact, enfin, il y a mille manières de pouvoir se rendre compte de ceci, et de tourner la vision, c'est-à-dire la présence, sur comment c'est d'être en présence d'un désir, comment c'est, et d'y être attaché. Comment c'est? Waouh! C'est tangible! C'est vraiment quelque part quelque chose qui est là, certainement, dans l'espace du mental. Il y a de l'agrippement, il y a de la saisie, il y a vraiment quelque chose qui est contraint. Et en même temps, ça peut se déployer. En tout cas, pour moi, ça se déploie tellement facilement physiquement, où je sens que, ah, il y a un figement, c'est quelque chose de très... très kinesthétique, très physique, où tout à coup, il me faut ceci absolument. C'est une question quelque part de vie. Et peut-être de fin de vie. Donc ça peut être très fort, cette manifestation. Le trouble de l'esprit. Donc reconnaître ce désir comme étant une expérience parmi tant d'autres permet quelque chose d'extraordinaire. Que en réalité, ça aussi, ça vient et ça passe. Ça vient et ça passe. Et c'est exactement ça qu'on découvre. Ben, c'est incroyable. Ça aussi! C'était là ce matin, c'est plus là, ça reviendra. Mais il y a beaucoup de mobilité. Il y a énormément de souplesse là-dedans. Il y a énormément de dynamique dans ce processus. Donc là, plutôt que d'être perdu dans le récit, et justement, il y a forcément une histoire qu'on se raconte, qu'il me faut absolument l'expérience souhaitée, de se perdre dans le récit, on va aller à la simplicité pour se dire, ben oui, il y a l'histoire que je me raconte, et puis il y a la nature de cette expérience, qui est un état mental, comme le calme, comme la joie, comme la présence. Et que cet état mental qui me trouble, il peut être reconnu d'une manière extrêmement claire. C'est du désir. Comme a dit Pascal hier soir, il y a une simplicité au niveau de cette présence. Reconnaître la présence lorsqu'elle est là. Reconnaître La joie lorsqu'elle est là. Reconnaître le désir lorsqu'il se présente. Aussi simple que ceci. On n'a pas besoin de s'en débarrasser. On n'a pas besoin de le suivre. Simplement, dans cette dimension de présence vigilante, il y a un aspect de sagesse, de rééquilibrage, qui fait que lorsqu'on est sorti de son axe, quand on est en mer agitée, eh bien, il y a une île. Et cette île, elle est toujours là pour nous. Et j'aime beaucoup cette image de l'île. L'île qui est la présence. C'est vraiment cette qualité de contact véritable avec la possibilité de se ressourcer parce qu'on y voit clair. La présence, c'est ça qui se passe. Et du coup, tranquillement dans ce processus, les choses, elles, reprennent leur place. On était complètement désaxé, peut-être complètement à l'envers, et c'est ok, on le voit, et waouh, tout à coup à nouveau situé. Et c'est dans la légèreté qu'on va pouvoir découvrir ceci. Vous me suivez là? Il y a vraiment une dimension qui est tout à fait extraordinaire dans le sens qu'on ne porte jamais le regard dans ce sens-là. C'est inhabituel, en tout cas pour moi. Peut-être que si on est là, c'est possible que on passe beaucoup de temps à essayer d'améliorer, d'arranger, de manipuler, d'avoir, d'obtenir. Et bien sûr que pour beaucoup de fois, ça se passe. Donc on dit, ben oui, je peux, je suis en contrôle, j'arrive à maîtriser, je peux obtenir. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que peut-être ça ne marche pas toujours. Qu'est-ce que j'ai fait de fou là? C'est tellement génial. Qu'est-ce que j'ai fait de fou? Ben voilà, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas arrivée. Le modèle, je n'ai pas été assez en conscience. Et hop, et ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un déploiement à ce moment-là d'identité qui fait que je me prends, moi, quelque part, en tant que handicapée de la situation. Et je m'enferme. Et donc, on peut s'enfermer dans le sens de se dire, mais on n'a pas réussi. Donc, il y a tout un registre là qui se déploie et qui va dans le sens de plus de souffrance, de plus de réaction, de plus de mal-être. Donc, la libération, ce processus de libération, il n'y a absolument rien de personnel dans ceci. C'est la nature de l'expérience qui va naturellement être... là, et je dois dire que c'est trouble si j'en parle et que si vous vous comprenez, c'est que c'est une expérience humaine. C'est dans notre respect de notre humanité, c'est une expérience humaine qu'on a tous, qu'on vit tous. Alors pas tous les types de désirs ont cette dimension de nous troubler, où on a quelque part une immense cause de stress. Quand on est en réaction. Je crois que c'est très important parce que souvent on se dit, ouais, ouais, toute forme de désir, ouais, les bouddhistes, non, il ne faut surtout rien désirer. Et c'est absolument pas ça. Il y a une forme, quelque part, d'obsession, de fixation, de stress, de réactivité. Qui fait qu'à ce moment-là, on est vraiment en difficulté. Mais on peut très bien avoir des désirs qui sont des aspirations. Donc c'est très important de savoir ça, de faire la différence. Qu'est-ce qu'un désir qui fait que ça me porte, ça m'aide? Si on est là, c'est évident qu'on a quelque part un désir d'aller mieux, de changement, d'être plus libre. Pour la plupart, d'être moins en souffrance. C'est pas vrai? Donc, c'est extraordinaire de pouvoir commencer à se rendre compte, tiens, qu'est-ce qui me porte et qu'est-ce qui m'allège, de qu'est-ce qui me stresse et qui va naturellement nourrir plus de confusion. Et c'est la base, en réalité, c'est la confusion qui fait que on éveille cette dimension de l'espace de la confusion à plus de clarté. Et c'est dans la rencontre qu'on va avoir plus de clarté. D'un état de confusion totale, je vais pouvoir éclairer par le biais de cette présence attentionnée, de bienveillance, découvrir la différence. Et d'une certaine mesure, il y a toute cette dimension. Alors, quand on a quelque part cette exploration du désir-attachement, on va bien sûr être aussi en contact de l'inverse. Être attaché à vouloir uniquement des expériences plaisantes, et puis il y a l'opposé qui est ne pas vouloir ressentir et être en présence de ce qui est difficile. Vous avez eu des douleurs aujourd'hui? Corporelles, mentales, plein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une dimension de ne pas vouloir être en contact? C'est tellement humain. Cette dimension d'aversion, de répulsion, de rejet de l'expérience difficile. Mais là, au niveau de l'attitude, c'est quel est mon rapport à l'expérience? Qu'est-ce qui se passe dans ce rapport à l'expérience? Eh bien, j'attise la réaction en étant à distance. C'est un processus. Et donc, je me rends compte, oulala, plus je suis à distance, plus j'essaie de m'opposer, et il y a quelque part une dimension d'opposition, plus ça devient difficile. Il y a de la contraction, ça devient aussi quelque chose d'extrêmement palpable au niveau physique. On se resserre, et puis comme il disait Pascal, c'est l'étau. Et ça devient très très limité et enfermant. Donc il y a tout un aspect de pouvoir aller à la rencontre de ça. Et de se rendre compte que à nouveau reconnaître, ah oui, il y a ici une difficulté, une douleur, et il y a un rapport à cette expérience qui est le rejet, la répulsion. Et d'éclairer la répulsion, d'éclairer le rejet. L'objet de la méditation là, c'est le trouble. Qu'est-ce qui me trouble? Et c'est extraordinaire quand on commence à se rendre compte que, en premier lieu, il y a la douleur physique, et puis comment je la rencontre, eh bien ça peut naturellement augmenter la difficulté. Et qu'on passe par là. Et dans l'expérience, il y a tout un registre de découverte, de dire tiens, comment je peux m'aider, comment je peux m'accompagner, apercevoir, waouh, c'est dur, c'est difficile. Le rejet, c'est douloureux. C'est encore plus douloureux quelque part que l'expérience primaire. Donc on va éclairer comment se passe ce rejet, le refus de ce qui est là. Et à nouveau, c'est tellement pas personnel. C'est la nature de cette expérience qui est tellement pas personnelle. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de faille. Ça, c'est assez extraordinaire quand on commence à se rendre compte que c'est la vie. La vie, elle est composée d'aspects absolument plaisants et d'aspects un tout petit peu plus difficiles. Donc, au niveau de l'aversion, il y a bien des formes. C'est très vague hein, de dire aversion. Waouh, ça paraît, c'est quoi? Eh bien, une des manifestations, c'est justement cette façon d'être un peu irrité, d'être irrité, de ne pas avoir envie, d'être quelque part en friction avec ce qui se passe. Et c'est extraordinaire, c'est des fois exactement là que se situent les deux. Le désir-attachement d'explorer, de vouloir quelque chose, et en même temps, on a l'aversion à ne pas vouloir. Et donc, ces deux démarches-là sont tellement difficiles. On veut et on ne veut pas en même temps. Et ça, c'est très, très difficile. Il y a beaucoup de doutes qui émergent à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va choisir? La dimension du fait de vouloir puis de nourrir ça, ou est-ce qu'on va aller dans le sens du rejet? Ou simplement se dire, tiens, waouh, la présence, à un moment donné, à dire, tiens, il y a effectivement là une possibilité et on ne peut pas se dédoubler. Vous pouvez vous dédoubler? Ça paraît difficile. Donc, ni vouloir et pas vouloir, et c'est exactement là qu'on a un registre extrêmement compliqué. C'est l'attaque multiple de tout ce qui peut être difficile. Et de rester au contact, à un moment donné, il y a effectivement cette extraordinaire exploration qui fait, ah oui, il y a du vouloir, il y a envie, il y a du désir attachement, et en même temps, il y a pas vouloir le déplaisant. Et ça se manifeste. Et si on reste au contact, on voit que l'un, quelque part, est une succession de l'autre. L'un est une succession de l'autre. Dans cette qualité de présence, qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Et c'est là que c'est fabuleux, parce que c'est tellement incroyable dans cette immobilité ou dans une mobilité tranquille, comme on fait dans la marche, on perçoit qu'il y a une nouvelle manière, en tout cas pour ma part, de me positionner, c'est que la grande différence, c'est qu'on n'a pas besoin d'agir sur. Et c'est ça qu'on fait, la plupart du temps. On essaye d'agir sur. Et agir sur, eh bien, c'est ce qui clairement amène de l'agitation, quelque part, beaucoup d'activité, et ça rend la chose encore plus difficile. Donc, de pouvoir être réceptif, de laisser l'expérience se vivre et de percevoir qu'elle est là et qu'elle passe, qu'elle est là et qu'elle passe. Et progressivement, c'est ça qu'on découvre, que j'ai pas constamment besoin de changer les choses. Et dans cet espace de plus grande ouverture, on peut dire, disponibilité, consentir, on consent à pouvoir explorer, se passe quelque chose de différent. Et ça, vraiment dans cette présence au contact de la simplicité, il n'y a pas plus simple que ce type de méditation, où on ne cherche pas à trouver une réponse, on ne cherche pas à trouver une solution, ou même à réfléchir à comment on va trouver un résultat. Et bien sûr qu'on va passer du temps à ça, mais dans sa coloration, l'esprit est troublé, coloré, il a une teinte momentanée, habité par le désir, un instant, puis ça passe. Puis tout à coup, waouh, il y a du calme. Comment on est passé de l'un à l'autre? Souvent, c'est assez difficile de s'en rendre compte. On n'arrive pas à vraiment être au contact. J'ai pas été là, puis tout à coup, waouh, c'est plus là. Et on ne sait pas comment. On ne sait pas comment parce qu'on n'a pas passé par justement ce registre de réflexion. Donc, très naturellement, il y a plein de moments de phase où on va se demander « Mais pourquoi c'est là, ça? Pourquoi? Pourquoi je ressens ça maintenant ?» Et on va chercher la cause. Et bien sûr que la cause, elle est peut-être dans un autre temps qu'au présent. C'est possible qu'on ait la cause. Je me rappelle d'avoir vécu des histoires qui n'étaient pas du tout en lien avec le présent, et qui sont vraiment de l'ordre de notre vécu, du passé, et qui émergent dans cette exploration. Mais dans une certaine manière, on ne va pas commencer à essayer de rebobiner le film, et puis de voir, tiens, ah oui, c'est ça qui s'est passé, et puis ça. Donc, on reste, dans la mesure du possible, au présent. Comment ça m'habite maintenant ? Quelle est l'expérience maintenant? Donc c'est plus simple. Et très naturellement, il y a quelque chose qui émerge de l'ordre de la compréhension, mais d'une intuition. Cette vision pénétrante provient de « Ah, il y a l'intuition !» Quelque chose qui vient et on ne sait pas d'où. Donc on n'a pas peut-être vu tout le déploiement des causes et des conditions. Mais ça émerge. Et c'est très surprenant quand tout à coup ça m'éclaire d'une certaine manière. Donc il y a le désir d'attachement, il y a naturellement des différents types d'aversion. Il y a aussi l'agitation et la somnolence. Deux types d'énergie qui naturellement nous troublent. Quand l'esprit est agité, troublé par l'agitation. Agitation mentale, il y a beaucoup de pensées. Ou agitation physique, on n'arrive pas à rester en place. On est vraiment comme une puce qui bouge constamment. Et c'est difficile de rester au contact. Alors là, quand il y a de l'agitation, je crois que c'est tellement aidant que d'ouvrir. Ouvrir l'audition, donner de l'espace, vraiment élargir le champ de l'expérience, plutôt que de rester dans un lieu tellement petit qui nous contraint. Très souvent, c'est accompagné, après coup, de somnolence, d'épuisement. Ça agite et ça nous épuise en même temps. Parce que le rapport à cette expérience-là, c'est que on essaye vraiment à nouveau de s'en séparer. On veut changer l'expérience. Et tout ce qu'on fait pour changer l'expérience, eh bien, nous rend encore plus fatigués. Donc on est crevé à la fin de la journée. C'est exactement ça qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. En apparence, rien. Et en fait, beaucoup de choses pour essayer de transformer, de changer. Et on a des mécanismes. Ce sont des mécanismes de protection. Et il n'y a aucun doute que ça fait partie de l'exploration. Alors, on a chacun un peu son registre préféré. Hein. On a vraiment quelque part la tonalité préférée. Souvent, c'est soit la somnolence, soit l'agitation. Et c'est quelque chose qui nous visite d'une manière très, très récurrente. Donc, on a peut-être un mélange. Mais ça a été tellement fascinant pour ma part. La somnolence faisait complètement partie de chacune des retraites. Vous vous rendez compte combien j'ai dû être persévérante pendant longtemps. C'était vraiment le vécu pendant si longtemps. Et je me disais, mais ça sert à rien d'être là, quoi. Franchement, c'est du temps perdu. Et peut-être que vous vous êtes dit ça aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est fascinant de voir le récit qu'on rajoute, à se dire, c'est pas ça l'expérience, je perds mon temps. Et un jour a émergé, vraiment, à nouveau, on se dit, waouh, mais ça émerge de nulle part, la compréhension qu'on s'en fait. C'est comme si ça émergeait de nulle part. Parce qu'on est au contact, c'est la présence qui porte, c'est là, c'est vivant, ça bouge, on se bat contre, et puis on lutte. Et puis après, on se dit, bon, allez, c'est pour ça, il faut faire encore un petit effort, on reste là, on est ouvert. C'est pour ça que je dis, franchement, bravo, parce que tout méditant ou méditante sera passé par ces phases. Et je peux vous dire que, voilà, je sais pas pour vous décourager, mais au contact de la vie, c'est un processus lent, quoi. C'est pas comme on veut aujourd'hui, comme on dit, quick fix. Tac, j'appuie sur un bouton et puis ça le fait, quoi. Non, cette exploration de l'être humain, de la nature humaine, mais c'est ça qui est magnifique, c'est que quelque part, on peut aussi se dire, tiens, au contact de la somnolence, au contact de l'agitation, de l'aversion, il y a de la libération. C'est une présence libératrice. Et donc, vous êtes attaché à savoir ce qui s'est passé par rapport à ma somnolence. Tout à coup, je ne sais pas vraiment, comme on dit, out of the blue, de nulle part, a émergé une compréhension. Waouh, parce que la somnolence, bon, on peut être fatigué, c'est clair, épuisé, mais quand ça se répète comme ça, et puis c'est vraiment des mécanismes de répétitifs et monotonie, ennui. Je dis, mais là, il y a quelque chose quand même. Et c'est vrai que au niveau du trouble de l'esprit, c'est quelque part quelque chose qui a de l'ordre à un retrait. La somnolence, c'est une forme quelque part de retrait. L'agitation, c'est je veux me déployer, puis il faut que l'énergie sorte absolument. Et puis la somnolence, c'est waouh, quelque part, c'était tellement clair que ça avait un lien avec ma vie en tant que petite fille que j'ai vécu, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, puisque je parle assez souvent de ça, dans un milieu tellement difficile quand j'ai grandi, tellement hostile, tellement aversif, avec beaucoup de disputes, de conflits, de difficultés. Et qu'en fait, mon seul moyen de trouver du repos, c'était la somnolence, de partir dans le sommeil. Donc, une protection. Une protection. Et c'était génial. Au moment où j'ai pu me rendre compte et faire le lien, je me suis dit, mais maintenant je comprends. Au présent, ce qui se passe ici, c'est un lien avec ma manière de positionner et d'être en rapport avec l'expérience de repli. Donc, on a chacun notre façon, quelque part, de nous protéger par rapport à ce qui est difficile. Et donc, lorsqu'il y a une douleur physique, lorsqu'il y a peut-être tout un état d'aversion où on se dit, ouah, non, c'est pas possible, pas encore ça, mais ça, j'ai cru que j'avais réglé. Et puis, ça émerge. Et ça apparaît d'une manière tellement claire. Et un jour, un moment, je me souviens tellement clairement, là, ces moments-là, ils sont précieux, on s'en souvient, s'il y a eu des compréhensions. Et tout à coup, ça a fait tilt. Waouh, mais c'est ça. Et au présent, ici, maintenant, de rester au présent. Parce que la tentation, c'est d'essayer de comprendre, hein, d'aller dans le récit. En tant que, voilà, petite fille, ben pourquoi ça s'est passé? Puis forcément, on passe un petit peu de temps à dire, waouh, c'était vraiment dur, c'était vraiment douloureux. Oh, mais ma pauvre, ce que tu as vécu. Et il y a cette dimension de bonté, de bienveillance. Il y a eu des larmes qui ont coulé. Ça m'a vraiment, quelque part, libérée de quelque chose de douloureux. Et en même temps, je me suis dit, bon, eh bien, c'est vu. Et aujourd'hui, au présent, quand ça s'est passé et que j'ai vu ça, bah, c'était plus du tout les mêmes circonstances. Mais quelque chose de l'intérieur, là, de très profond. À ce moment-là, à émerger. Et ça nourrit de la curiosité. Et ça nourrit de l'intérêt. Ça nourrit quelque part de la vivacité, de voir que j'ai peut-être plus besoin de ce mécanisme de protection ou de défense. Donc, ça, c'est un éclair de lucidité. C'est un moment de présence libératrice. Car cette présence, elle est bien sûr nourrissante. Elle transforme. Elle permet une transformation, tranquillement, lorsqu'on laisse juste quelque part le soin du déroulement de la vie, du vécu au présent. Donc c'est une expérience, mais qui peut-être est parlante par rapport à vécu. Donc, la somnolence, ça peut tout à fait être là, parce que voilà, vous êtes crevé, puis il n'y a pas besoin que ce soit tout en régie. Allez, cherchez pas, hein. Vous n'avez peut-être pas eu du tout la difficulté, mais qu'on a peut-être chacun, chacune, quelque part, des aspects qui fait qu'on se met en rapport à une expérience présente et qui a trait, forcément, à un vécu, à une vie, à ce qui a été éprouvé. Et que c'est parlant. Alors, Là, de nouveau, il ne s'agit pas d'exclure complètement le récit quand j'ai fait la découverte de ça. Mais bien sûr qu'il y a eu une compréhension et que ça a donné sens. Et donc, on donne sens. Et pourquoi? Je comprends le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette expérience présente? Et en même temps, on ne se laisse pas trop perdre dans le récit. Parce que c'est dans le récit que, à nouveau, j'attise. Et je favorise quelque part le trouble. Donc, désir attachement, aversion, agitation, somnolence font partie de l'aventure. Reconnaître ce qui se passe, être au contact, dans la mesure du possible, permettre. Et ça prend tout un déploiement. De permettre. Je ne permets pas, je ne veux pas, je m'oppose. Et je reviens et je me resitue. Donc tout ça est vraiment très, très vivant. Et c'est ce qu'on dit, c'est la démarche quelque part. C'est ce qu'on explore à chaque instant. Le dernier trouble qui est mentionné est sans aucun doute. C'est quelque chose qui a émergé, je suis sûre. Par moment, sans aucun doute, c'est le doute. D'avoir du doute. Vous avez du doute? Plein de doutes. Le doute. Alors, il ne s'agit pas du tout du questionnement, à se dire, tiens, mais je me questionne. Et là, c'est cette espèce de tourner en rond, le doute sceptique, ou qu'est-ce que je fais là? Ça ne me sert à rien, je ferais mieux de faire autre chose. Est-ce que c'est pratiqué pour moi? C'est beaucoup trop. Isolé, j'en ai fait d'autres. Même il y a tellement de manières de douter. La forme aussi, la forme de la pratique, la façon de pratiquer. C'est tout à fait possible que on entende le mot ah ouais, vipassana, stage, puis que, en tout cas pour ma part, il y a tellement de formes de vipassana, ça ne correspond pas complètement à ce qu'on a peut-être pu expérimenter. Donc, on a du doute. Le doute des enseignants. Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils disent là-haut? Est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Surtout quand ils expriment leurs difficultés et tout. Tant d'années et puis, oh! Encore ça! C'est honnête. C'est honnête. C'est humain. Et je vais vous dire un secret. C'est que il s'agit pas de se débarrasser de quoi que ce soit. Il y aura encore du doute, il y aura encore de l'aversion, il y aura encore du désattachement. La différence, c'est que waouh, ça nous prend moins. C'est vraiment, vraiment là que se situe la rencontre. La rencontre, elle est là. Elle est tellement dans la vie, dans notre humanité, dans accepter, accueillir justement l'absence de perfection. Vive et vivement la perfection. Ayez du doute. Doute conscient, doute, plein de doute. Waouh, mais le doute, c'est tellement extraordinaire. J'arrête pas de douter ces temps. Douter du sens de la vie, douter de la vieillesse, douter de... C'est clair, c'est extraordinaire. Quand on commence à pouvoir le goûter, le savourer, comment c'est le doute au présent? Plutôt que de chercher autre chose. Les certitudes, c'est ça. Waouh, les certitudes. Justement, ce déploiement de croire que on peut avoir des certitudes. Et bien, la vie aujourd'hui, je peux vous dire, vaut mieux explorer nos doutes et puis aller dans le sens de, de ce qui est incertain, parce que vraiment, je ne sais pas si c'est plus que jamais, mais en tout cas, c'est vibrant et c'est vivant. Qu'il y a là, ça valse, ça bouge, ça tangue à beaucoup de niveaux. Donc, il y a ce doute. Mais ce doute qui nous habite, et si on ne le rencontre pas, eh bien, il va naturellement prendre toute la place. Et on suit. Et ça, c'est vraiment des pensées. Hein. Quand je me dis le récit, c'est pas possible, je ne peux pas être là, pas une minute de plus et autres, c'est très important d'éclairer, de dire je voudrais être ailleurs. Ah ouais, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai loupé là? Je me rappelle dans une retraite, pas très longtemps. Tous mes amis ont eu un billet pour aller aux Caraïbes, malheureusement. Il n'y avait plus de billets pour moi. Et voilà, je suis là. Ah, j'ai dit oui, effectivement, entre les Caraïbes et puis la retraite de méditation en silence. Et c'était fascinant parce que pendant 2 jours, il était là à rêver d'être aux Caraïbes, au bord d'une plage. Je ne veux pas vous tenter trop, mais. Et puis le troisième, quatrième jour, tout à coup, il dit, mais il n'y a pas de hasard. C'est là que je dois être. C'est tellement fabuleux. Les Caraïbes, ça peut m'apporter certainement du plaisir au niveau des sens. Mais là, je suis en train de goûter quelque chose de tellement vital. Toute ma vie en dépend. C'est vraiment ça qui était ces termes. C'était génial. Et donc, voilà, il y a tout ce qu'on dépend au niveau des doutes, où on pourrait être, qu'on n'est pas. Et puis, voilà, si on y va, comment ça se passerait? Et puis, à ce moment-là, si on donne trop de place à ça, eh bien, on loupe l'occasion de la rencontre. On loupe l'occasion de rencontrer ce qui peut se déployer ici maintenant. Donc, le doute. Le doute qui se porte sur l'extérieur, le doute des enseignants, de la méthode, des doutes, à mon avis, en tout cas pour moi, qui a été le plus handicapant et que je revisite souvent, c'est le doute de soi. Le doute de soi. Après un certain temps, on a vraiment confiance dans l'enseignement, on peut l'appeler, dans la pratique, dans le déroulement. Ça a du sens, ça fait sens. Ça fait sens. Mais longtemps, ça a été là, c'était waouh, ok. Oui, c'est effectivement bénéfique. Ça libère, ça fait du bien. Mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis à la hauteur? Et c'est pas la bonne question, à nouveau. Il n'y a pas de hauteur. Demeurer dans la simplicité. Et c'est là que, waouh, la simplicité est tellement aidante, c'est touchant. C'est touchant d'être dans la simplicité, de dire, ben oui, je doute. Et ce doute, eh bien, il peut aussi être reçu. Il a aussi sa place. Et puis, il y a une dimension là d'accompagnement dans le sens de la bienveillance. Donc, il trouble. Et en même temps, il y a la présence qui permet d'aller à la rencontre du trouble. Et le trouble, eh bien, il perd de son pouvoir. C'est extraordinaire combien ces forces-là sont fortes tant qu'on leur donne du pouvoir. Et c'est génial au moment où il y a, par bribes, par petits moments, cet éclaircissement et se dire, tiens, mais en fait, c'est du doute, c'est que du doute, c'est du désir, c'est de l'aversion, c'est de la somnolence. Et tout à coup, j'ai à nouveau une disponibilité. Le pouvoir que prennent ces troubles diminue. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du pouvoir de nous intimider. Du pouvoir de nous intimider. Donc, voilà quelques mots sur cette dimension tellement humaine, d'humanité, du respect de notre être tout entier. La beauté d'être au contact du calme, la beauté d'être au contact du doute, la beauté d'être au contact de ce qui peut être douloureux et de pouvoir avoir une position qui est quelque part beaucoup plus libre, libre au contact des conditions, libre au contact de ce qui se passe, pas dans un autre lieu, une autre manière. Et c'est ça qui émerge tranquillement. Tranquillement. C'est une présence libératrice. Et donc, ce mot de liberté, c'est vraiment, et on va bien sûr en reparler, mais cette liberté, c'est l'absence de saisie. Qu'on n'a pas besoin de saisir, de prendre ça comme personnel. Rien n'a besoin de me définir. Le doute, c'est pas mon doute, c'est à moi. Quelle horreur! Ce que je ressens, c'est dans la nature de l'expérience, voilà, c'est du doute. C'est juste ça, comme une sensation, comme une respiration. Ça émerge et ça passe. Et ça, c'est l'aspect qui vient tranquillement, dans la nature de l'expérience, cette nature, ce goût, cette saveur du déploiement. Donc, il y a un dépouillement. Donc, quelles que soient les plaintes du moment, quelle que soit la difficulté qui a pu émerger, permettre aux choses d'exister, d'émerger. Alors, c'est encourageant. Je vais terminer avec juste une petite parabole. Vous savez que les enseignements sont pleins de contes, de légendes. Et bien sûr, ce sont des histoires qui... Non, pas, c'est pas la vérité pure, on est bien d'accord que ce sont des légendes, mais vous aussi peut-être que vous allez pouvoir être à la rencontre que du doute 5 minutes avant l'éveil. 5 minutes avant l'éveil. Aspirez à l'éveil et 5 minutes avant l'éveil, il est dit, c'est une façon de parler, que Siddhartha, l'aspirant Bouddha, était envahi de doute. Donc vous voyez, il n'y a pas que Patricia ou moi. Et c'est génial de pouvoir avoir cet exemple. Donc cette rencontre de Siddhartha, le Bouddha à venir avec Mara. Hein? Mara qui personnifie tout ce qu'il y a de, on peut dire de démoniaque, mais c'est quand même très fort comme terme, de troubles dans l'esprit. Hein? C'est tous les troubles mentaux qui viennent et qui émergent, les états émotionnels qui émergent dans notre conscience. Et donc, il a eu la visite de Mara d'une manière très, très claire. Mara qui vient sous plusieurs formes, la forme du désir, la forme de l'aversion, la forme... de l'agitation, de l'irritation, de la colère, de la rage, de la peur, de l'anxiété. La liste est longue au niveau des troubles. Et il dit que Mara l'attaqua avec ses 100 000 flèches. Vous vous rendez compte ? 100 000 flèches qui vous attaquent. C'est peut-être comme ça que vous avez vécu la journée, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette... sorte de rencontre avec son esprit qui est exactement là, la même rencontre d'avec le nôtre. Et puis, naturellement, à plein de reprises, mu par la confusion, mu par le trouble, mu par la culpabilité, la honte, tout ce qu'on rajoute par rapport à ce qui se passe de primaire, d'expérience primaire. Et cette fois-là, il est dit que il a eu la force de ne pas être intimidé, l'aspirant Bouddha, et qu'il prit la terre comme témoin. Et on a donc cette merveilleuse position de prendre la terre comme témoin. Il disait, Mara, cette fois-ci, tu ne mourras pas. Je prends la terre comme témoin d'avoir le droit de demeurer présent ici et maintenant, et à percevoir ces émotions, ces troubles comme simples troubles. Pas d'intimidation. Que fit Mara ? Il s'évanouit. Choup ! Disparu. Et donc, c'est tellement génial. Dites-vous, s'il y a un aspect là qui vous trouble, Mara, je te reconnais. Parce que c'est vraiment ça. C'est ça, cette extraordinaire capacité de la présence. Je te reconnais. Et les 100 000 flèches se transformèrent en pétales de fleurs qui tombaient du ciel. Voilà, comme l'histoire finit bien. Donc voilà, l'imagerie, cette extraordinaire imagerie qui peut naturellement nous aider, nous soutenir, c'est absolument merveilleux de pouvoir avoir quelque part un rapport à Mara qui fait que on peut par moments lui donner tout son pouvoir, être complètement troublé, et à d'autres moments c'est ouais, attends, oui. T'es qui toi? J'aime bien ça dans le rap. T'es qui toi? Et de pouvoir maintenir sa position, quelque part de rester dans son axe. Troublé un instant, pas troublé l'instant d'après. Troublé un instant, pas troublé l'instant d'après. Et c'est vraiment comme ça qui se passe. Un instant, c'est pas pour toujours. C'est pas pour toujours. C'est vivant, cette vie-là. C'est vivant. Un moment troublé, l'instant d'après, j'y vois clair. Je perçois le trouble. Voilà, je m'arrête. Merci de votre écoute. Il y a 20 minutes de marche. Il est moins le quart. Et on revient pour 15 minutes de assise en silence. Comme on sera en silence, je vais simplement dire, vous donner une nouvelle, qui j'espère peut-être porteuse en tout cas. Il va y avoir une possibilité à 6h30 du matin de faire du Qigong à l'extérieur, puisque normalement tous ces prochains jours, il doit faire beau le matin. Et donc, à 6h30, bien sûr que c'est un choix. Hein. Voilà, de nouveau, là, du choix. Moula, le Qigong, la marche méditative, le Qigong, la marche méditative. Simplifié. Et puis, ça va se passer. Donc, devant, c'est sympa aussi parce qu'on a réalisé que vraiment, la salle de yoga n'est pas très grande. Hein. Donc, c'est peut-être un petit peu frustrant. Vous n'êtes pas là à courir. Donc, il y a une autre possibilité d'être aussi ensemble et d'avoir quelque part une méditation en groupe et avec grande générosité, une méditante ici présente va donc proposer du Qigong demain matin. Quand il pleut, pas de Qigong. Voilà, donc on espère qu'il fera beau. Voilà, donc à tout à l'heure. Que la personne qui sonne le gong le sonne à... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà oublié. 9h? Oui, 9h. Merci.